Et aujourd'hui, nous allons voir le septième commandement. C'est celui-ci. Tu ne commettras point d'adultère. Voilà, c'est des commandements qui sont extrêmement concis dans la manière de le dire. Et nous voulons prendre le temps donc maintenant de considérer ce commandement ce soir. Ça va? Bien, donc on a eu un petit souci technique, ça s'est un petit peu arrêté là, ici. Très bien, on y va, on continue. Donc je reprends la question que je veux soulever ce soir, c'est quel est le péché qui est visé par ce commandement? Alors, je regarde la définition de l'adultère dans le Larousse et c'est écrit que c'est la violation du devoir de fidélité entre époux. Alors, le dictionnaire biblique, donc ça c'est une définition qui est correcte, et le dictionnaire biblique dit que c'est la violation volontaire de l'engagement de fidélité dans le mariage lorsque l'un des partenaires a une relation sexuelle avec une troisième personne. Donc je crois que ces définitions sont correctes et c'est ce que l'on entend en général dans le commandement tu ne commettras point, en tout cas dans la définition de l'adultère. Mais je pense que si on veut vraiment avoir une compréhension un peu plus précise de ce que ce commandement englobe, il faut regarder comment le Seigneur Jésus lui-même le conçoit quand il a une discussion avec les pharisiens, les scribes, ou lorsqu'il en parle, notamment dans le sermon sur la montagne, en Matthieu chapitre 5. Alors je vais vous lire ce qu'il en dit dans Matthieu chapitre 5. Donc si vous avez votre Bible, vous pouvez regarder en Matthieu chapitre 5 et à partir du verset 27, nous pouvons lire ceci. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Et si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que tout ton cœur, qu'un seul de tes membres périsse et que tout ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Et donc, on voit ici que Jésus donne une définition particulière. Il va de l'adultère. Il va réorienter la pensée de ses disciples, des personnes qui sont là, à qui il parle dans ce sermon. Et ce que l'on peut souligner, c'est que l'adultère, selon ce que Jésus dit ici, est avant tout une affaire de cœur et pas simplement de corps ou d'acte extérieur, d'acte physique ici. Et moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère dans son cœur avec elle. Et vous vous rappelez que les pharisiens étaient imbus d'eux-mêmes. Et rappelez-vous la prière du pharisien quand il disait « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. » Donc vous voyez, ils étaient fiers du fait qu'ils ne commettaient pas un acte. Mais Jésus dit non, c'est plus que ça. Ce que Jésus dit, c'est que vous pouvez ne jamais avoir accompli l'acte physique d'adultère et être néanmoins coupable d'adultère devant Dieu. Parce que c'est avant tout quelque chose qui se passe dans le cœur. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités. On lit ça dans Matthieu chapitre 15 et au verset 19. Et donc le septième commandement, celui que nous considérons ce soir, a déjà été violé bien souvent dans le cœur avant qu'aucun acte sexuel illicite ne soit commis. Et donc, autrement dit, l'acte physique d'adultère n'est que la manifestation, on pourrait dire aboutie, de l'adultère qui a déjà eu lieu dans le cœur, dans la pensée ou dans l'imagination. Alors, on pourrait se demander quelle différence y a-t-il entre celui qui physiquement commet l'adultère et celui qui ne l'a commis que dans son cœur. Eh bien, on pourrait dire que c'est qu'une question, parfois d'opportunités ou de circonstances extérieures. Parfois, l'environnement dans lequel on est peut faire que l'on est retenu plus ou moins. Il y a un commentateur qui dit ceci, il s'appelle Frédéric Goudet, il dit que tout péché d'intention dont les circonstances empêchent la consommation est commis aux yeux de Dieu, parce que Dieu regarde au cœur. Donc, ce n'est pas parce que les circonstances m'ont empêché d'aller jusqu'au bout, parce qu'il y a des choses qui m'ont empêché d'aller jusqu'au bout, si ça a été dans l'intention du cœur, il dit que Dieu l'a vu et c'est déjà condamné par Dieu. Et dans le livre que nous avons étudié, certains d'entre vous en tout cas, il y a quelques temps déjà, sur la mortification du péché, le théologien John Owen dit ceci, il dit que le péché vise toujours le maximum chaque fois qu'il se lève pour tenter ou séduire. S'il avait libre cours, il irait vers le péché le plus élevé de sa catégorie. Et donc il ajoute ceci, il dit chaque regard ou pensée impure serait un adultère s'il le pouvait. Chaque désir envieux serait une oppression. Chaque pensée d'incrédulité serait un athéisme s'il pouvait croître jusqu'à maturité. Et donc on voit ici, hein, c'est vraiment dans le cœur que les choses se passent. Donc Jésus, ici, recentre un petit peu le péché qui est visé. Là, ce n'est pas simplement un acte, mais c'est une disposition, une attitude de cœur, les regards, les choses que l'on peut nourrir dans nos cœurs et dans nos pensées et qui déjà peuvent nous conduire à l'adultère. Deuxième question que je voudrais souligner ici, c'est qu'implique donc l'observation de ce commandement? Parce qu'il dit « tu ne commettras point d'adultère ». Qu'est-ce qu'il implique? Bien, il implique l'extension, je crois, du commandement à toutes les facultés humaines. Compte tenu de ce que Jésus dit ici, hein, l'observation du commandement implique qu'on l'étende aux domaines les plus larges, beaucoup plus larges que les actes extérieurs. Dans la loi de la République, par exemple, hein, lorsque vous avez commis un meurtre, vous serez condamné parce que vous avez commis un meurtre. Mais vous ne serez pas condamné si vous avez nourri des pensées de meurtre, de colère ou de haine contre quelqu'un. Si la loi de la République vous condamnera, si vous avez commis un viol, mais pas si vous avez nourri dans votre cœur des pensées adultères ou de viol à l'égard de quelqu'un. Vous voyez, c'est-à-dire que, en fait, son champ d'application de la loi civile, c'est les actes. Elle ne peut pas faire quelque chose tant qu'il n'y a pas des actes qui ont été commis. Mais il n'en est pas de même pour la loi de Dieu. Vous voyez ici, elle s'applique aux actes du corps, bien entendu, comme la loi civile, mais elle va beaucoup plus loin. Dieu regarde au cœur et donc sa loi s'applique aussi au cœur, à tout ce que nous pouvons penser, à ce que nous pouvons regarder, ce que nous pouvons écouter, ce qui peut avoir dans notre imagination. Et donc, la loi, ce commandement de Dieu, il implique vraiment que l'on étende le commandement plus qu'à un acte physique, mais à tout le domaine de notre vie, toutes nos facultés. Deuxièmement, je crois que l'observation de ce commandement implique que tout soit mis en œuvre, tout vraiment soit mis en œuvre pour qu'on puisse y obéir. Il dit « tu ne commettras point d'adultère ». Donc c'est la responsabilité, c'est ma responsabilité. Ce passage nous parle à nous « tu ne commettras point d'adultère ». Et donc tout doit être mis en œuvre pour obéir à ce commandement. Et premièrement, je dirais que tout doit être mis en œuvre en s'éloignant radicalement de tout ce qui peut conduire à l'adultère. Ici, Jésus dit « si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, eh bien tu la coupes et tu la jettes. » Jésus indique par là que l'observation du commandement implique parfois des mesures radicales. On ne va pas jeter son œil, on ne va pas littéralement se couper la main, mais on peut jeter tout ce qui, sous mes yeux, peuvent m'inciter à pécher. Donc on peut se détourner de tout ce qui peut me conduire à pécher. Et Job avait dit ceci, hein, dans Job 31:1, il a dit « j'avais fait un pacte avec mes yeux, je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. » Je le redis, « j'avais fait un pacte avec mes yeux, je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. » Et donc, le commandement implique que l'on s'éloigne de tout soit dans la télé, dans les livres, dans les fréquentations, dans tout ce que je peux faire. Parfois, c'est même dans certains emplois, hein, tout ce qui pourrait m'éloigner, qui pourrait voilà, m'éloigner du Seigneur et m'inciter à commettre le péché d'adultère. Et peu importe si ces choses sont agréables, peu importe si je les trouve utiles ou valorisantes, elles doivent être radicalement abandonnées si elles constituent une occasion de chute. Et donc, il n'y a pas d'obéissance, en fait, de toute façon, sans concession. Deuxièmement, je pourrais dire que ce que ce commandement implique, bon, on l'a dit plutôt que il implique que l'on fasse tout, qu'on mette tout en œuvre pour y obéir, en nous éloignant hein, radicalement de tout ce qui peut me mener à l'adultère, mais aussi en recherchant tout ce qui va dans l'autre sens, comme on l'avait dit la dernière fois, en recherchant la pureté sexuelle, et en faisant la promotion de cette pureté aussi. Non, alors, non seulement il faut faire des efforts pour ne pas se laisser entraîner vers l'adultère, mais il faut faire des efforts qui vont nous aider à aller dans l'autre sens. L'apôtre Paul, par exemple, dans Éphésiens chapitre 4, verset 28, quand il dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, il ne s'arrête pas là. Ça, c'est le commandement, on pourrait dire, l'aspect négatif. Il va plus loin, il dit, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Autrement dit, il dit que le voleur ne vole plus, mais que le voleur donne maintenant. Donc, ce n'est pas simplement qu'on s'arrête de faire quelque chose, mais c'est que l'on fait ce qui est bien et qui va dans le sens contraire. Je crois que pour le commandement de l'adultère, il en est de même. Et l'aspect positif, le commandement positif qui est contenu dans ce commandement-là, c'est vraiment le fait de rechercher la pureté sexuelle, la pureté dans nos relations, dans nos pensées. La promotion de la pureté sexuelle par l'honneur du mariage, par exemple. Hébreux dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Donc, il y a ici une exhortation forte à honorer le mariage, le nôtre si on est marié, mais celui des autres aussi. Et ceux qui ne sont pas mariés doivent respecter le mariage des autres, et ceux qui sont mariés doivent respecter le mariage des autres. Tous, on est concernés par cela. Et je voudrais ajouter ceci dans la section qu'on a lue dans l'évangile de Matthieu ici, juste après, je me suis arrêté au verset 30 et au verset 31, il est dit, et Jésus dit ceci, il dit que celui qui répudie, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, l'expose à l'adultère. Il dit encore, et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Et on voit que dans ce qui est devenu maintenant monnaie courante, le divorce, il y a ici une dimension très importante que le Seigneur Jésus y rattache, c'est celle de l'adultère. Il dit que celui qui répudie sa femme, il expose à l'adultère. Sauf pour cause d'infidélité, il expose à l'adultère. Et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Et si vous lisez le passage dans Marc, chapitre 10, il est dit que celui qui répudie sa femme pour en épouser une autre commet un adultère, et la femme qui répudie son mari pour en épouser un autre commet un adultère. Et donc vous voyez ici, ce commandement-là, c'est pas juste je n'ai pas commis d'acte extérieur avec quelqu'un, c'est déjà dans le fait d'initier même un divorce, ou dans le fait de se remarier même avec quelqu'un qui a été divorcé, dont le mari est encore vivant. Vous voyez, je ne peux pas rentrer dans les détails là ce soir, on n'a pas le temps, mais ça va jusque. Voilà. Troisièmement, donc on avait des petits soucis techniques encore, hein, donc excusez-nous. Hein. Troisièmement, je voudrais dire aussi que le commandement implique que l'on mette tout en œuvre en aidant les autres aussi. L'apôtre Paul dit aux Romains, chapitre 14 et verset 13, il dit « Ne nous jugeons donc pas les uns les autres, mais pensez, vous méditez cela, pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. » Et donc, je dois viser à ne rien faire qui pourrait inciter quelqu'un à l'adultère aussi. Hein. Et cela, ça peut être par ma manière de parler, par ma manière de parler avec les gens, par ma tenue aussi, la tenue que je porte, etc. Et l'apôtre Paul disait, rappelez-vous aux Philippiens, quand il y avait le problème avec Saint-Tiché, il vous dit, il dit à Donc, il dit à son collègue, l'apôtre Paul dit aux Philippiens, chapitre 4, versets 2 et 3, il dit « J'exhorte Évodie et Saint-Tiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur, et toi aussi, fidèle collègue, aide-les. » Donc, nous sommes appelés à aider les autres aussi. Et donc, je dois tout faire, que je sois une femme, soit un homme, je dois tout faire pour que, ne pas être une pierre d'achoppement moi-même, mais pour aider mon frère ou aider ma sœur à obéir correctement au commandement de Dieu. Et Arthur Pink disait ceci, il dit « Si regarder pour convoiter est un péché si grave, alors celles qui s'habillent et qui s'exposent avec le désir qu'on les regarde et qu'on les convoite ne sont pas moins, mais peut-être même plus coupables. » Vous voyez ce qu'il dit? Il dit, Dieu dit « Tu ne convoiteras point, d'accord ?» Et donc il dit, celui qui regarde une femme, pardon, tu ne commettras point d'adultère, celui qui regarde une femme avec le désir de la convoiter comme un péché, mais ceux qui s'habillent d'une manière pour qu'on puisse les regarder et attirer la convoitise, n'aident pas à accomplir le commandement de Dieu. Et donc je conclue en disant ceci, nous sommes tous concernés par ce commandement, parce que Jésus dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Il parle de ceux qui regardent pour convoiter, ici. Et cela concerne, bien sûr, là, il parle des hommes par rapport aux femmes, mais on peut comprendre, on peut mettre le commandement des femmes vers les hommes aussi, des jeunes vers les, etc. Donc, tout le monde est concerné par ce commandement. Et puis, je voudrais terminer en disant que les commandements de Dieu nous montrent combien Dieu est saint et combien nous sommes pécheurs. Mais en même temps, je crois qu'ils sont un appel à la repentance. Peut-être nous pouvons dire, mais que faire ici si on a commis des choses, si on a dans nos pensées nourri des choses, eh bien, je crois qu'il faut se détourner de toutes ces choses, mais demander à Dieu vraiment de nous pardonner, nous repentir sincèrement et demander à Dieu la grâce de nous aider à nous en détourner. C'est un commandement qui est très important et Jésus dit, il vaut mieux, il y a une dimension vraiment importante là-dedans, il dit, il vaut mieux avoir un bras coupé et entrer dans le royaume de Dieu avec un bras coupé que d'avoir les deux, c'est-à-dire ne pas avoir pris de mesures radicales et de se retrouver dans la géhenne. Et dans Hébreux, il dit bien aussi que ceux qui n'honorent pas le lit conjugal, eh bien, ils seront jugés, ils seront sous le coup du jugement. Et l'apôtre Paul disait aux Corinthiens, rappelez-vous cela, que ceux qui pratiquent ces choses, la débauche, etc., il ajoute l'adultère, eh bien, ces personnes ne seront pas dans le royaume de Dieu. Donc, dire, c'est dire comment ce commandement, comme tous les autres, bien sûr, est important. Donc, que le Seigneur nous aide à considérer ces choses et à prendre vraiment sa parole au pied de la lettre et au sérieux. Donc, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te remercions encore pour ta parole, ton commandement, qui nous montre combien tu es grand, combien tu es saint, combien tu es soucieux de notre cœur, pas simplement de ce que nous pouvons faire avec nos membres, mais de tout ce qui nous motive, de nos pensées et du fond même de notre cœur. Tu veux que la vérité soit au fond de notre cœur. Je te loue que tu nous aies ainsi donné ta parole afin qu'on puisse savoir comment obéir à tes commandements. Dirige-nous, Seigneur, et donne-nous de ne pas prendre ces choses à la légère, de nous écarter de tout ce qui pourrait nous amener à enfreindre ta loi et de nous montrer comment nous pouvons positivement faire tout ce qui peut nous aider à obéir à ta loi. Aide chacun d'entre nous t'en prions, pour la gloire de ton nom. Amen.